On va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 150. C'est un psaume que Soda, je l'appelle Soda, c'est plus rapide que Soda Pop, que Soda a évoqué dans son enseignement. Ce matin, je voudrais revenir un peu sur ce séminaire en montrant en quoi ce ministère de Marol dans C'est la vie est... tout simplement la même vision que celle de notre Église, et en quoi il y a ces convergences, et ce que ça peut nous aider, parce que c'est vrai que la vision, c'est difficile à communiquer une vision, parce que c'est un paradigme, comme vous l'avez compris, qui est très difficile à changer, parce que vous avez tous un paradigme, hein. Vous avez tous une manière de penser, vous avez tous une manière de... Voilà, sauf qu'il s'est construit, voilà, à votre niveau. Mais l'Église, c'est une communauté où, dans Acte 2, 42, nous avons le principe de la communauté, ils mettaient tous ensemble, ils étaient tous ensemble devant le Seigneur, ils mettaient tous en commun. L'idée, c'est de mettre en commun. Si on a des paradigmes différents, des façons de penser différentes, on ne peut pas réellement mettre en commun. C'est ça la difficulté. Donc, pour être Église, c'est qu'on pense la même chose. Ce n'est pas la pensée unique, hein. Comme souvent, voilà, on est des bœufs, on a la pensée unique. Non, c'est simplement la pensée qui est alignée sur la Bible, sur ce que Dieu pense. C'est pour ça que nos modèles de paradigme, c'est de rechercher ce que Dieu pense sur tel et tel sujet, de manière à l'aligner sur la pensée de Dieu. Mais n'empêche que ça heurte nos paradigmes à nous, qu'on a reçus, notre enfance, notre famille, notre société, nos pays, enfin partout, toutes les influences tout petit, ont construit une façon de voir les choses. Voilà. Donc c'est vrai que Marol nous a aidés, enfin, à mon avis, à illustrer un petit peu cette vision, et donc je vais revenir dessus pour vous montrer en quoi ça converge et quelle est la convergence, de manière à ce que vous puissiez vous approprier la vision. Vous voyez, parce que je suis toujours un petit peu peiné de voir quand il y a des personnes qui viennent et qui disent « Oh, mais on n'a pas compris la vision ». Ok, mais pour ceux qui veulent rentrer dedans, demandez-moi, je peux donner des cours particuliers sur la vision, mais c'est important pour qu'on puisse être en Église, c'est-à-dire de commun accord ensemble, dans une même façon d'aborder les choses, d'aborder les problèmes. Psaume 150, c'est le dernier psaume, celui qui clôture le livre des psaumes, et c'est une sorte de ce qu'on appelle doxologie. Doxologie, c'est glorifier Dieu, c'est ce que le chant comprend. Enfin, on ne chante pas parce qu'on ne connaît pas la mélodie, mais à chaque sainte scène, je rappelle Philippiens 2, 10, justement, où Jésus s'est abaissé et Dieu l'a élevé, l'a glorifié. Ouais, c'est la gloire, c'est un chant qui était chanté dans l'Église primitive tous les dimanches et qui était repris par Paul et qu'il a intégré dans l'Épître aux Philippiens. Et là aussi, c'est un chant de louange à Dieu. Hein, on peut le prendre aussi dimanche prochain de reconnaissance. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le avec la sonnerie du cor, louez-le avec luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. On prend ce dernier verset. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Notre passage nous dit que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ce sont les vivants. C'est pourquoi que quand nous passerons par la mort, tous, nous revivrons parce que nous allons louer l'Éternel dans l'éternité. Voyez-vous, la mort a été vaincue par ce que Jésus a fait à la croix. Et la mort ne pouvait pas le retenir parce que Jésus est vivant. Sauf que sa mort était une mort sacrificielle, une mort pour nous, une mort qui nous a donné la rédemption de nos péchés, qui nous a rachetés de notre nature. Mais la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu par le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Le ministère de Marol, dans C'est la vie, je pense que ça a pris des années pour Soda et Christine de construire ce ministère. Et là, bon, il y en a qui les connaissent depuis un certain temps, dont Marie-France, entre autres. C'est pas d'hier qu'ils ont ce ministère, mais je trouve qu'ils l'ont maturé, ce ministère, au point où, l'année dernière, j'étais frappé par ce qui se dégageait de ce ministère. Bon, je sais que tous vous n'adhérez pas à la danse, et c'est pas le problème, parce que justement il rajoute au mot danse le mot mouvement. Voilà. Et donc là, c'est une maturité dans la compréhension de leur ministère, parce que la danse pour la danse, vous voyez, le monde danse. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que il y a des cultures. Bon, qui sont très dansantes, d'autres moins. Par exemple, les Allemands, ils sont très portés sur la musique. Conservateurs de musique, voilà, ils sont très musiciens dans l'âme, quoi. Les Italiens, les mamas, elles chantent. Voilà. En France, on n'a pas trop cette culture. Je connais pas trop de familles dans lesquelles la mère de famille, pendant qu'elle pèle les patates, elle chante, elle fait un chant comme ça. Non, c'est vrai ou pas? Ça peut arriver, hein, mais c'est pas la culture. Pas la culture du chant sans arrêt, de la musique, etc. Je dis pas que les Français sont pas musiciens, mais il n'y a pas la culture. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et par exemple, certaines cultures considèrent que danser dans l'église, c'est un peu un scandale, parce que ils ont l'habitude de danser dans les boîtes de nuit. Alors bien sûr, ramener la danse dans la boîte de nuit, dans l'église, ça le fait pas. Hein. Donc je comprends le parallélisme. Mais quand on sait que là, dans ce psaume en particulier, et dans tout l'enseignement biblique, la danse est considérée comme glorifier Dieu, ça prend un autre sens. Et c'est ça le changement de paradigme. C'est qu'il ne faut pas rester sur son paradigme à soi en disant « Ouais, la danse est réservée au monde, la danse est réservée aux boîtes de nuit, la danse est réservée pour faire tout ce que vous voulez, bon, etc. » Et que apporter ça dans l'église, c'est un scandale. Je comprends le choc. Mais ça prouve que on ne fait pas un travail sur soi pour comprendre qui a créé les choses. Est-ce que c'est Dieu ou Satan qui les a transformées? Voilà, c'est ça. Et il y a des églises aujourd'hui qui sont plutôt dans le domaine charismatique, qui importent des danses, etc. Mais alors c'est tout de suite les caricatures. Là, on avait des chanteurs, des danseuses, voilà, qui ont voyé le nombril, vous voyez. Bon, voilà, c'était une église à Dédé. Hein. Bon. Ça prouve que, en fait, on rentre dans des choses en important tout, et justement des choses qui renvoient au monde, mais qui ne renvoient pas à glorifier Dieu. Et j'aime bien dans le ministère de Marol, il explique les choses. Je ne sais pas si vous avez vu, en particulier Christine, elle glorifie le Seigneur par des versets bibliques, elle connaît très bien sa Bible, et elle illustre les mouvements. Parce que les mouvements, c'est l'accompagnement du corps dans l'expression de la parole qui exprime quelque chose. Voilà, vous utilisez tous la parole. La preuve, c'est que dans les chants de louange, on a des paroles et de la musique. Bon. Mais les paroles expriment des choses, renvoient à des représentations. Si vous chantez « Dieu est bon, il m'a fait du bien et qu'il a créé l'univers, etc. » Tout ça, c'est des mots qui renvoient des images, qui renvoient des réalités que vous pouvez imaginer. Et si vous ne les comprenez pas, bon, bah, vous avez un peu de temps pour chercher ce que veut dire le mot, pour rentrer dans le chant. Eh bien, la danse ou l'expression du mouvement, c'est tout simplement que le corps accompagne cette réalité, et que le corps glorifie le Seigneur, et que le corps participe à la louange. C'est ça l'enseignement fondamental de Marol dans C'est la vie, c'est qu'on est une offrande totale. Ce matin, on a chanté, Seigneur, que nous soyons une offrande vivante pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous enlevons le corps et que nous pensons que l'intelligence, la pensée, ou le chant, qui est aussi une forme d'intelligence, on la porte au Seigneur et pas le corps, on est libre ensuite après de faire avec le corps ce qu'on veut. Vous voyez, on est libre d'aller au dancing, on est libre d'aller n'importe où, etc. Parce qu'il y a une séparation. Le corps ne fait pas partie de notre louange, notre expression de louange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où les paradigmes, quand on les garde, ont une influence sur notre action, notre façon d'agir. Vous voyez? Et dans le passé, on a dû se bagarrer un petit peu, plus maintenant, où effectivement, il y a des jeunes, tout ça, qui faisaient partie de la louange, mais qui ne se gênaient pas d'aller dans les boîtes, etc. Bon. Et après, on sentait un peu une lourdeur dans la louange et on s'étonne. C'est une question de cohérence. Cohérence. Esprit, âme et corps. Et dans cette cohérence, on aligne tout notre être, esprit, âme et corps, vers le Seigneur et on lui apporte tout notre être. Il y a un autre passage qu'on va lire dans 1 Thessaloniciens. C'est le dernier verset 23 du dernier chapitre de 1 Thessaloniciens. Donc 5 verset 23 où l'apôtre termine par cette exhortation: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Voyez-vous là, c'est une clarté limpide, que notre être, nous sommes un être vivant, que notre être est composé de l'esprit, de l'âme et du corps, et que dans cette totalité de notre être, nous sommes amenés, d'une part, à être conservés sans reproche. Ça veut dire que notre corps aussi a des limites dans son usage, son utilisation. Vous voyez, les Grecs, donc c'est un paradigme de philosophie du monde, mais qu'on adopte parce qu'on est grec, au fond, dans notre approche occidentale, les Grecs considéraient que le corps était la source de tous les maux, de tous les problèmes, de toutes les passions, etc. Et le philosophe, donc celui qui a la sagesse, eh bien, il se préserve de ça de deux manières. Soit par ce qu'on appelle l'ascèse, donc on oblige le corps à pas réagir, donc on est ascétique. On maîtrise son corps, voilà, le sage, il maîtrise son corps, il maîtrise ses passions, il maîtrise, voilà, ça c'est le sage, vous voyez. Et donc, il peut se sublimer, si vous voulez, se peut dépasser le commun du mortel par la possibilité d'être au-dessus du lot et le corps n'agit plus, vous voyez. Et l'idéal dans cette philosophie, c'est de dire le corps, à la limite, s'il pouvait complètement disparaître, eh bien, ce serait encore mieux. Et certains préconisent le suicide. Comme ça, c'est tranquille. On n'a plus de problème avec le corps. Et les autres disent, bah, comme le corps, bah, il ne sert à rien dans justement cette sagesse, eh bien, on en fait ce qu'on veut. Donc, on peut faire la luxure, on peut aller chez les prostituées, on peut. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est l'inverse. Donc, c'est le corps qui pose problème à l'être humain. Parce que encore l'âme, bon, on peut jouer sur les pensées, on peut, mais le corps, il est là, et il faut en tenir compte. Donc il y a cette philosophie, et il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle nous renvoie à ne pas faire ce mépris du corps, ni à le rendre ascétique, hein, ce que les catholiques ont fait. Les catholiques, c'est des chrétiens hein, qui ont vécu un peu plus que les évangéliques. Donc, c'est tout simplement qu'ils ont développé l'ascèse à tel point qu'ils ont inventé la silice. Vous savez ce que c'est que la silice? C'est Ignace de Loyola qui a développé ça en Espagne. C'est un peu comme Jésus qui a été frappé avec un fouet et au bout, il y a des clous. Un truc avec... avec des pointes. Et vous frappez le dos comme ça. Ouais, c'est la silice. Hein. Vous frappez avec la silice. Voilà. Parce que, voilà, il faut que le corps soit dominé, etc. Et vous, bien sûr, vous vous saignez et tout ça, voilà. Et donc, se frapper avec la silice. Hein. Et donc, c'est simplement une importation de la psychologie, de la philosophie grecque, qui a été christianisée. Hein. C'est une démarche philosophique qui est devenue une pratique chrétienne. Donc vous voyez, on n'invente rien. On n'invente rien. Quand on est dans une forme de pensée et qu'on ne l'abandonne pas, elle nous poursuit et elle l'intègre dans notre pratique chrétienne. Pour revenir à ce texte, il est dit que nous devons préserver dans notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, qu'ils soient conservés sans reproche. Donc il faut conserver le corps. Donc il faut faire avec. Et comment on fait avec le corps qui nous pose problème? Il nous pose problème déjà quand on se regarde dans un miroir, ben on ne s'aime pas, on n'est pas comme ceci, comme cela, bon, c'est le truc classique, mais bon, ça c'est voilà, un petit peu pour le fun, mais il y a tout un tas de choses que le corps nous pose problème. Et en ce moment, je n'ai plus du tout la même force qu'il y a 20 ans. Le matin, je suis fatigué, donc voilà, je n'ai plus la même capacité de travail que j'avais avant. Bon, petit à petit, on vieillit, etc. Donc, bon, il faut faire avec, mais bon, le corps nous impose un certain nombre de contraintes. Bon, ça, c'est certaines contraintes, il y en a d'autres. Hein. Et donc, on aimerait bien, d'ailleurs, l'apôtre Paul a bien dit, j'aimerais bien quitter ce monde, parce que lui aussi, bon, il a été plusieurs fois persécuté et même mis à mort. Enfin, comme mort, il a été lapidé et tout ça. Donc on comprend qu'il aurait voulu rejoindre le Seigneur plus tôt que prévu. Il a dit, mais par la grâce de Dieu, je reste, si c'est ma mission, jusqu'à ce que le Seigneur m'emmène. Donc il y a des moments où vous dites, le corps, basta, c'est quelque chose, quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Mais voilà, il faut le conserver. Parce que il fait partie de notre humanité. Et par contre aussi, quand on l'utilise à bon escient, c'est un témoignage. Et c'est ça que j'aime dans la vision de Marol. Et je termine par ce verset 24, je reprends ce verset 24. Celui qui ponctue en fait cette déclaration, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Et ça c'est la vision de notre Église. Chercher son appel. Alors quand on a fondé cette Église, on a cherché l'appel de Dieu pour l'Église, pour la communauté que nous représentons. Et l'appel qui était sans équivoque, c'est que on doit s'occuper des familles pour restaurer les familles. Donc c'est notre appel. Et ce qui est formidable, c'est qu'on ne s'époumonne pas à le réaliser, puisque c'est Dieu qui le fait. Quand on est dans l'appel de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Bien sûr, il faut accompagner. Dieu ne demande pas de ne rien faire. Il demande de coopérer à son action. Et c'est ça la vision. Découvrir l'appel. Donc vous devez chercher votre appel individuel. Là, je parle de la communauté. Nous, Michel, on a reçu un appel aussi quand on s'est marié, immédiatement. C'est Ézéchiel 3. Et on savait exactement ce qu'on devait faire à partir de là. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on suit l'appel, le Seigneur le fait rentrer dans la réalité. C'est Philippiens 2, 12 et 13 hein, qui le dit, « Travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. » Travailler, ça veut dire se mettre en travail, se mettre en œuvre, et pendant que vous marchez dans cet appel, bien Dieu vient à votre secours, et hop, comme qui rigole, je dirais, il vous pousse et vous aide à le faire entrer. C'est ça. C'est ça la vision que nous on développe et que vous essayez de transmettre pour que vous puissiez le faire dans un stade individuel et nous on le fait dans un stade collectif. Et c'est ça que j'aime dans ma rôle, dans C'est la vie. C'est qu'ils ont compris par un moyen différent d'une autre, en tout cas de ce qui me concerne avec Michel. On est parti de l'idée de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Et en partant de la compréhension de l'Église, on est tombé dans le même résultat, et heureusement que c'est comme ça, parce que c'est toutes des démarches bibliques, que Marolles dansait la vie. Et par quelques photos, je vais vous essayer de vous démontrer ça. Et du coup, ça illustre la vision de l'Église. Ceux qui ne l'ont pas encore vraiment saisi, je pense que là, on ne peut pas ne pas le saisir, on ne peut pas passer à côté. Maintenant, on peut vouloir passer à côté, c'est autre chose. Mais ne pas le comprendre, c'est plus permis. Vous voyez, parce qu'il illustre de manière fantastique. Alors, on va y aller. Et j'ai bien aimé que dans leur ministère, ils ne parlent pas que de la danse. Déjà, ils parlent du mouvement. Donc la danse, c'est enlevé, c'est mouvement. Ensuite, ils parlent de l'identité. Voilà. Ensuite, ils parlent de la louange. Ensuite, ils parlent dans l'ensemble de leur spectre de présentation. Ils parlent louange. Aidez-moi si je en oublie un, je crois. Louange, adoration, mouvement, identité. Peut-être encore un autre. Mais, pardon, intercession. Donc, ça résume un peu leur vision. Et comprendre notre identité, c'est aussi ça, qui sommes-nous, hein. Quand moi j'étais obligé de faire le site web, Olivier m'a dit il faut mettre qui sommes-nous. Voilà, qui sommes-nous. Et souvent, quand vous allez sur un site, vous savoir qui est derrière, quelles sont les idées, etc. Vous cliquez, normalement, vous trouvez qui sommes-nous, l'identité. Notre identité en tant que communauté, c'est comprendre notre identité pour adhérer et s'associer à une démarche commune de l'agir ensemble, puisqu'on est dans une communauté. Basé sur un modèle biblique, légitime, c'est-à-dire qui est conforme à la Bible, hein, conforme à la loi biblique, et efficace parce qu'il marche. Parce que personne n'a envie de suivre un modèle qui ne marche pas. Hein. Rien de pire, la frustration qu'on suit quelque chose qui ne marche pas. Donc un modèle pour croître dans la connaissance de Dieu, pour partager l'évangile et résister aux pressions du monde. Parce que Satan est toujours à l'œuvre, il ne faut pas l'oublier, mais c'est simplement une résistance, ce n'est pas un combat contre lui. Alors l'enjeu, c'est de vivre quelque chose ensemble dans le royaume de Dieu. Et j'aime à dire et à redire, et tout ce que vous voulez, que je ne m'inscris pas en tant que pasteur à des visions comme certains pasteurs qui regardent le nombre. Combien on est là? On est 60. Bon, dans 2 ans, dans les pastorales, ils vous demandent combien vous êtes. Ok, bon, on est à 100, donc c'est bien. Ah oui, vous êtes moins, donc ça ne va pas, etc. Puis vous êtes à 200, vous risquez d'avoir une bonne promotion d'une église qui est à 200, etc. etc. On n'est pas dans cette recherche-là. Nous, on est dans une recherche où on peut vivre quelque chose ensemble. On peut expérimenter quelque chose. Si c'est ça votre désir, vous êtes dans la bonne église. Si c'est un désir, effectivement, de voir croître le nombre, je ne suis pas contre la croissance, hein, c'est pas ça, mais c'est une question de motivation. Si vous voulez vivre quelque chose ensemble, si on veut, pendant ce temps que nous sommes sur Terre, vivre quelque chose ensemble, vous êtes dans la bonne église. Parce que c'est ça que nous recherchons. Nous cherchons à expérimenter ensemble un événement, une expérience. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans le passage de Marolles, dans C'est la vie. On a vu, en tout cas ceux qui sont venus, parce que certains n'ont pas pu, mais certains ne se sentent pas encore intéressés par ça. Mais je peux vous dire qu'on a vécu quelque chose ensemble. Quels sont ceux qui confirment ça? On a vécu quelque chose. Et c'est ça qui m'importe. Enfin, en tout cas dans la vision que je porte, c'est de vivre quelque chose ensemble pour le royaume de Dieu. Amen. En tout cas, moi je dis amen, parce que c'est ce que je veux partager avec vous. Amen. C'était le vécu du séminaire. On ne peut pas sizer autrement. C'est bizarre qu'il y a les pourtours qu'on ne voit pas. Oui. Ah oui, ça. Tu peux le faire, non? C'était le vécu du séminaire Marolles du 8 au 11 novembre, avec Soudain et Christine Janville. Alors, le psaume 150, il y a aussi Apocalypse 15:3 qui parle de cette louange dans le ciel, ça s'inscrit dans la grande danse de C.S. Lewis. Qui connaît C.S. Lewis? Vous connaissez tous Narnia. Si vous n'avez pas vu Narnia, je vous invite à le voir. C'est un film qu'il faut absolument voir. Mais il a écrit beaucoup de livres. C'était un des plus grands théologiens du XXe siècle, qui était très pratique et qui a écrit un livre justement sur la grande danse. Et cette grande danse, il dit que c'est inscrit dans l'univers, cette grande danse, parce que la danse, c'est le mouvement. Je fais un peu de physique, hein, au passage. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite à la température? Là, aujourd'hui, il fait bon. Il a gelé ce matin, je crois. Est-ce qu'il y a une limite basse à la température? Un zéro. Basse. Quelle est la limite basse quand vous descendez en température? Vous descendez en température. 20, 19, 18, 18. Quelle est la température la plus basse qu'on puisse atteindre? Moins 273. Merci Jérôme. Quelqu'un qui se rappelle de sa physique. Moins 273. C'est pas zéro. C'est pas zéro. Zéro, voilà, on dit tous zéro parce que c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est partout. Là. Et quand vos canalisations et gèlent, elles peuvent péter dans la maison. Bon. Donc on connaît tous la température zéro. Mais c'est pas la température basse. Mais il y a une température basse qui est moins 273. Dans l'univers, quand vous allez dans l'univers, si vous avez envie un jour de faire un voyage sur la Lune ou Mars, bientôt ce sera disponible. Hein. Peut-être pas à portée de nos bourses, mais il y en a, je crois, qui ont déjà des billets là, qui vont aller. Hein ben, oui, oui, il y en a qui ont des billets. Je crois l'année prochaine, ils vont aller sur voilà, sortir dans l'espace. Il fait moins 273. Allô? Vous croyez qu'on résiste à moins 273? Comme on est 80% d'eau, vous voyez ce qui arrive. On est gelé. Ben, qu'est-ce que... Alors, je vous fais réfléchir un petit peu. Quelle est la particularité du zéro absolu, moins 273? Pourquoi est-ce qu'il fait froid? Pourquoi est-ce qu'il y a cette température? Quel est physiquement le résultat de l'obtention de cette température aussi basse? Pardon? Non, c'est pas tout à fait ça, mais je pense que vous avez trouvé. Bien, bien. La bonne réponse, c'est ça. Merci René. Voilà, elle a trouvé tout de suite. Les molécules, vous savez qu'il y a des atomes et des électrons, ça bouge. Hein, voilà. Eh ben, quand vous arrêtez ça, le mouvement, donc c'est pour ça que j'étais frappé par ce Dapop qui parle du mouvement, hein, quand vous arrêtez tout mouvement, c'est la température absolue, le froid absolu. C'est l'absence de mouvement? Alors? Ça vous parle un petit peu? Oui? Oui? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, la physique nous aide un peu à voir les réalités. Vous savez, quand je parle de modèle efficace, c'est qu'on est tous confrontés. Comme j'ai travaillé dans l'espace, j'ai dû tenir compte de ça pour les satellites. Effectivement, quand les températures, et ça fait des bilames. Hein, et grâce au carbone, on arrive. Parce que le carbone, c'est le coefficient zéro. Alors que si vous prenez de l'acier, de la lune, n'importe quoi, ça bouge dans tous les sens. Donc, ce ne serait pas possible de faire des satellites. Donc, c'est grâce au carbone qui a un coefficient de dilatation zéro qu'on arrive à obtenir les iPhones et tout ça, sinon ça ne marcherait pas. Donc l'absence de mouvement, c'est la mort, c'est le froid absolu, voyez-vous. Même dans la physique, le modèle il marche. Voyez. Donc le mouvement, et là je rejoins Soda Pop, Soda et Christine, le mouvement est l'expression de la vie. Alors? Il n'y a qu'une personne qui est convaincue, là. Elle est tellement convaincue qu'elle ne peut pas s'empêcher d'y ramener. Mais c'est vrai. L'absence de mouvement, c'est la mort. D'ailleurs, la mort, normalement, quand il est vraiment mort, hein, vous pouvez lui toucher l'absence de mouvement. Ouais. Oui?
J'étais chez le kiné régulièrement encore pour traiter ça. Et puis je lui dis, c'est bizarre, mais pendant les vacances, j'ai essayé de me reposer, j'ai essayé de rien faire. Et ben ça a empiré. Il me dit, ah mais ça, c'est le non-mouvement, pile dans ton truc. Donc trouver l'équilibre. Mais...
Voilà. Ouais, c'est vrai que nos enfants aussi, souvent, étaient chez le kiné, et il a empêché qu'ils ne fassent plus rien, parce que c'est pire que de se faire un petit peu mal, mais de bouger. Voilà, donc le mouvement. Le mouvement, C.S. Lewis l'a exprimé de cette manière-là, ouais, c'est quand même joli, de voir la grande danse. Et il a écrit un livre sur la grande danse dans l'univers. Voyez. Et le mouvement permet la vie, le mouvement permet la chaleur, le mouvement permet l'amour, le mouvement permet d'exprimer la vie. Hello? Et ça, c'est marrant. C'est marrant. Ceux qui ont vu des séminaristes, ceux qui étaient là, qui ont exprimé ce chant du gospel, qui est par une merveilleuse, je vois le meilleur en toi. Je vois le meilleur en toi. Tu vois le meilleur en moi. Ça, c'est l'expression d'un encouragement. Vous êtes encouragé quand on voit le meilleur chez vous? Vous êtes découragé quand on voit le plus mauvais? Alors, c'est vrai que l'éducation nationale française est très, très bonne pour voir le mauvais. Le mauvais. Il faut toujours améliorer. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, il y a une tâche. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Là. OK. Les Américains et les Canadiens sont plutôt dans... c'est bien d'encourager. D'encourager. Bah, le Seigneur nous encourage. Le Seigneur t'encourage. Il voit le meilleur en toi. Et quand on est encouragé, il y a la vie qui revient. Hello? À la vie. Quand on voit le plus mauvais en toi, bah, tu dis, qu'est-ce que je fais là? Voilà, c'est nul, voilà, je suis nul. Voilà. Non. Et ça, c'est marole. Ça, c'est marole. Et quand vous avez vu ces séminaristes qui dansaient ensemble, je pense que ça a dû vous toucher pour voir que le mouvement communautaire apporte la vie. Apporte la vie. Témoigne d'une présence réelle dans la vie. Amen. Alors, on va avancer. Le modèle. Le modèle, c'est tout simple. On est, que ce soit Marolle ou que ce soit l'église d'Aubergenville, on est tous basés sur le modèle de la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Ou je, tu, il. C'est la déclinaison de la personne. Je suis, tu es, il est. Ok ? Dis-le à ton voisin. Je suis, tu es, il est. Bah, ça, c'est les personnes de la Trinité. Je suis celui qui suis, c'est le Créateur, l'Auteur, la Source, l'origine de tout, c'est le Père. Tu es celui qui est venu pour apporter la guérison, pour apporter la restauration. Tu es venu pour me sauver, tu es venu pour me libérer. Amen. Tu es le libérateur, le sauveur, celui qui nous a aimés, tant aimés, qu'il a donné sa vie. Voyez. Et il est, le Saint-Esprit est. Le consolateur, il est le réconforteur, il est la puissance de vie, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voyez-vous, cette action commune en mouvement, en mouvement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça c'est la dynamique, c'est le feu de Dieu. Amen. Est-ce que tu veux le feu de Dieu? Est-ce que tu veux que ta vie soit embrasée par son amour? Eh bien, rentre dans le mouvement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est le modèle. Bien, tout simplement que les théologiens ont découvert, c'est pas écrit la Trinité et ceci, cela dans la Bible, mais tout parle de cela. C'est un concept qui a été développé par les pères de l'Église et qui est le fondement du christianisme, qui est particulier puisque c'est un en trois ou trois en un, comme Soda n'arrête pas de le répéter sur le plan individuel. Alors sur le plan individuel, c'est l'esprit, l'âme et le corps. C'est une répétition du modèle, on appelle ça un modèle anthropologique qui est basé sur l'homme, c'est la science de l'homme. Si on exclut l'esprit ou si on mélange l'esprit et l'âme, que certains font, eh bien sûr, c'est pas faux parce que l'esprit c'est le souffle de Dieu et l'âme c'est le souffle aussi. Sauf que l'âme... Alors, je fais une petite précision parce que certains pensaient découvrir un nouveau concept dans le cœur. Et maintenant, ils pensent qu'il ne faut plus utiliser l'âme, il faut utiliser le cœur. En fait, le cœur fait partie de l'âme. Parce que le cœur, alors en hébreu c'est leb, c'est la partie intime de la personne. Vous voyez, l'âme, c'est la psyché, c'est ce que l'homme peut faire dans sa caractéristique de personne. Il peut faire un tas de choses. Il peut écrire, il peut lire, il peut chanter, il peut danser, il peut reproduire la vie en s'accouplant. Il peut, voilà, c'est la personne, l'âme. Tout le monde a une âme. Okay. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir une âme. Hein. Les non-chrétiens, ils ont une âme. Okay. Et donc ça, c'est la caractéristique de la personne. Et le cœur, c'est l'essentiel, c'est l'essence, c'est ce qui donne sens à la vie. Vous voyez, c'est ça le cœur. Hein. Que ce soit dans l'Ancien Testament, où c'est marqué, où c'est utilisé leb, L-E-B, ou dans le Nouveau Testament, où c'est utilisé psyché, le cœur ou de la psyché, hein, donc psychique. Et la différence, c'est que le chrétien, son esprit est éveillé. La nouvelle naissance, c'est quand on accepte Jésus, c'est Jean 3 avec la Samaritaine, quand on accepte Jésus, on reçoit la vie de Dieu. C'est pas la vie propre, le psyché c'est la vie propre, la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne sa vie. Amen. Et on revient dans Genèse, quand on a été créé, on avait un contact avec Dieu. Tous les soirs, Dieu venait et dialoguait avec Adam et Ève avant la chute. Et c'est ce contact qu'on retrouve ici, sans attendre que notre corps, qui est source, je suis d'accord, de problèmes, hein, sans attendre, nous pouvons vivre ce déjà pas encore. Parce qu'un jour, nous aurons le corps de Jésus. Un jour, nous serons délivrés de ce corps. Un jour, nous aurons un corps glorieux, comme Jésus s'est manifesté à ses disciples. Ça, c'est sûr. Mais il faut attendre. Hein. À ce que je sache, aucun d'entre nous n'a ce corps-là. Donc nous sommes dans le déjà, pas encore du royaume, où le corps aussi prendra la forme du corps de Jésus. Mais en entendant l'âme, vous voyez, il y a une priorité entre le mouvement, c'est l'esprit, l'âme et le corps. C'est dans ce sens-là. L'âme peut expérimenter une restauration. Il peut expérimenter une restauration. Et la première leçon de TQP, c'est quoi ? Marcher par l'esprit. Voilà. Marcher par l'esprit, c'est un commandement pour le chrétien. Et vous ne marcherez pas par la chair, parce que voilà, vous ne pouvez pas faire les deux. Donc, si nous marchions par l'esprit, à chaque instant, tout le temps, eh bien, nous pourrions vivre dans cette dimension du jeu. Vous voyez, on passe du moi au jeu. Bon, c'est une façon d'illustrer les choses. Hein. Je suis. Celui qui suit, c'est Dieu. C'est un être qui est parfait. Et on peut dire, je suis quelqu'un qui est aimé de Dieu. Je suis quelqu'un qui a une destinée. Je suis quelqu'un, vous voyez ? Donc, on devient une personne à part entière. C'est pour ça que dans notre vision, c'est une communauté d'hommes libérés dans toute leur personnalité, pour devenir une personne. Et donc, c'est ça la vision. C'est, on appelle ça autrement la sanctification, hein, dans le jargon théologique. Donc, sanctifier, ça veut dire que notre âme, eh bien, reçoit la vie de l'esprit et est transformé et va au travers du corps, s'il participe, alors il peut ne pas participer, s'il participe, eh bien devenir glorieux. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu la gloire de Dieu ? Ben, il devait se voiler le visage tellement il rayonnait. C'est pour ça que les gens qui parlent de la gloire, la gloire, la gloire, je veux dire, ça se voit. La gloire, quand on rencontre la gloire, ça se voit sur la personne, ça se voit sur le visage. Okay, ça ne peut pas tromper. C'est un visage ouvert. Est-ce que vous avez vu le visage ouvert de Soda et de Christine ? Non ? J'entends vos réponses. Ça parle tout seul. Ça parle tout seul. Ça veut dire qu'il se laisse transformer, c'est pour ça qu'il s'améliore, hein, bon, ceux qui connaissent il y a 20 ans, parce qu'ils vivent ce qu'ils disent. Et ils vivent leur modèle. Et leur modèle transparaît par toutes les pores de leurs os. Alors, notre modèle à nous, d'église, moi je suis plutôt parti sur l'église, c'est le modèle des trois E. Le E, c'est l'épouse. Nous sommes épouses de qui ? De Christ ? Le corps de Christ, c'est l'épouse de Christ. Lui, l'époux, nous sommes l'épouse. Et nous sommes déjà dans cette danse avec notre époux, en préparation du mariage final. Nous sommes fiancés, mais voilà. Donc l'époux, ici à la place de l'âme, donc ça c'est du collectif, hein, ça marche comme l'esprit. L'épouse, elle est en esprit, parce qu'elle est spirituelle, c'est un corps spirituel de Christ. Et ici, c'est l'État ecclésial. Alors l'État, qu'est-ce que ça va faire là-dedans, l'État ? L'État-nation, l'État. Voilà. Eh bien, l'État, c'est simplement le mode de gouvernement d'une société organisée. Une société désorganisée ou despotique, et là, un monarque despote. Et là, tout ce que vous voulez, c'est la différence entre un État. Quand il y a un État, ça veut dire que ce n'est pas une personne qui est mise en avant. C'est le collectif, c'est le bien commun, c'est le sens du bien commun. L'État, ça doit être un ensemble de personnes qui sont responsables de ces biens communs de l'Église. Alors, vous faites la différence entre bien privé et bien commun ? Entre intérêt privé, intérêt commun ? Intérêt public, intérêt. Voilà. On le perd un petit peu, hein, parce que nos gouverneurs, non, justement, on leur reproche de se servir dans la caisse, on leur reproche d'utiliser leur pouvoir, etc. L'Église doit avoir un État, un peu comme l'âme au niveau individuel, un État qui est ecclésial, de l'Église. Ce n'est pas un État-nation, c'est un État-Église. Et c'est Jésus qui l'a créé en disant Petros, Petra, Ecclésia. Et le troisième EEE, c'est l'Ecclésia, pas l'Église, l'Ecclésia, parce que l'Ecclésia, c'est l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale des membres qui constituent l'Église. L'Église, c'est le E, c'est un et indivisible. Et l'Ecclésia, c'est l'Assemblée générale des membres évangéliques d'Élisabethville. Donc c'est très précis. C'est nous, notre identité, c'est ça. Ma rôle dans C'est la vie, c'est une manifestation extérieure d'un mouvement intérieur, de ces trois personnes. Et la danse révèle ce que nous sommes. Soda nous introduit dans ces trois mouvements, écouter, recevoir et donner. Ok ? Écouter, recevoir et donner. Vous voyez ces trois mouvements ? C'est les mouvements de ces trois personnes. C'est les mouvements de la dynamique de ces personnes. Et qu'est-ce que nous on a mis, pour ceux qui connaissent un peu la vision, sur cette vision ? Sur le côté gauche, il y a l'orientation de ces trois éléments, hein, de l'épouse, de l'État ecclésial et de l'Église évangélique d'Élisabethville. Et au milieu, c'est le besoin de guérison, la métamorphose. J'ai utilisé l'image d'une larve et d'un papillon. Celui qui marche en esprit, il devient papillon. Sinon, il reste une larve. Okay ? C'est une autre image, hein, mais qui est complémentaire. Et les trois mots qui sont utilisés, c'est croire, comprendre et agir. C'est la guérison du cœur. Et c'est marqué là, la guérison du cœur. C'est l'essentiel, l'essence de notre personne. Et ça, je me suis un petit peu inspiré de ce pasteur-là qui est de Dallas, non, de Las Vegas, comment il s'appelle, Paul Goulet. Voilà, Paul Goulet, il a écrit tout un livre sur la guérison dans son livre qui parle de cette guérison dans l'âme, hein, qu'on doit acquérir pour passer au paradigme du royaume de Dieu. Donc, nous sommes amenés dans cette transformation, une métamorphose. C'est-à-dire, nous ne sommes plus la même chose. Le papillon n'est plus une larve. Le papillon peut s'envoler. Et si nous sommes libérés dans toute notre personnalité par la puissance de Dieu, y compris le corps, parce que si le corps, nous le mettons à part, nous ne pouvons pas devenir le papillon. Vous voyez ? Nous sommes toujours amputés d'une réalité, d'une dimension de glorifier le Seigneur. Amen. Et les Juifs ont bien compris ça. C'est pour ça que dans leur expression de louange, il y a la danse. Les Juifs qui sont imprégnés d'une culture hébraïque et non pas une culture grecque, parce que nous sommes grecs. Alors le grec, c'est le corps parfait. Hein, si vous n'êtes pas un Apollon, vous êtes nul. Hein. Vous n'avez pas une dimension, je ne dirais pas de quelle partie, peu importe, vous n'êtes pas parfait. Et c'est ça à la perfection. Quand on est dans cette dimension, on critique tout ce qui n'est pas parfait. Quand on est dans la dimension hébraïque, juive, on ne regarde pas ça. On regarde simplement le mouvement. Est-ce que le corps, il accompagne le mouvement? Est-ce que le corps, il glorifie le Seigneur? Est-ce que le corps, il est dans la dynamique du changement de l'âme? Et dans les yeux, vous savez, on a fait des exercices, on voit l'âme. On voit l'âme dans les yeux. Si les yeux sont pétillants, ou s'ils sont amorphes, ou s'ils sont ténus, etc. Et ça, ça vient d'une participation du corps à l'ensemble. L'individu et le collectif de l'Église manifestent leur unité. Et dernier passage, dernier verset que je citerai, c'est les disciples qui ont dit, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Il a dit, un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pensée, c'est compréhension. J'ai regardé dans le grec, c'est compréhension. C'est prendre en soi. Prendre en soi. Comprendre. Prendre en soi. Donc c'est le fameux recevoir. Écoutez, recevoir. C'est aussi le deuxième élément de ce que je disais ici dans la vision, c'est comprendre. C'est prendre en soi ce que la parole de Dieu dit, la vérité nous enseigne et l'expérience avec Dieu. C'est adopter la stratégie de Dieu pour nos vies. Et le deuxième enseignement, qui n'est pas moindre mais qui est second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est donné. C'est donné. Ce commandement s'adresse à la personne du moi, qui est la personne responsable devant les hommes. Responsable devant Dieu, responsable devant les hommes. Voilà la vision de Marol, voilà la vision de l'Église. Et je trouve qu'il y a dans cette expression qui se passe de mots, de ce mouvement collectif où on fait des gestes ensemble, vous voyez, coordonnés, et bien ça anticipe notre manière d'agir ensemble. Si on agit séparément, on n'est pas mieux que le monde. Le monde, de plus en plus, il s'individualise. Alors, de plus en plus, il s'individualise. Est-ce que l'Église va suivre le même chemin? Oui, s'il se sécularise. Le constat, c'est oui. Mais est-ce que nous allons résister à ce constat? Alors, on le verra dans la suite. Parce que moi, je vois la participation à certaines choses dans l'Église qui me montrent, comme le danse, le mouvement, qui me montrent des choses. Vous voyez, le fruit, c'est ce que nous faisons. Et on voit le résultat. Donc, j'espère qu'on aille plus loin. Et ce qui est formidable, c'est que dans la vision de Marol, c'est qu'on ne peut pas tellement se cacher. La vision de l'Église, on peut se cacher. Oh, je ne comprends pas. Oh, c'est difficile. Oh, c'est ceci, c'est cela. Parce que les mots renvoient, bien sûr, à des représentation que nous on a. Et donc on ne comprend pas. Mais moi je vous renvoie à la vision de Marol, qui est la même. Et là, quand on est ensemble, on n'est pas ensemble, on est dans la vision, on n'est pas dans la vision. Hello? Vous m'avez entendu? C'est ça se voit. Et il faut que les gens, quand ils viennent ici, ils voient qu'il faut une expérience de l'unité de l'Église. C'est ça que je vous envoie comme défi. Si nous voulons le réveil, et nous voulons tous le réveil, il y a un chemin. Le réveil, c'est un chemin. C'est d'être ensemble. Amen. Dis à ton voisin, c'est d'être ensemble. Dis-le à ton voisin. Être ensemble. Ensemble. D'être ensemble. Amen. Voilà. Rapide, parce que j'ai déjà dépassé l'heure.
Bonjour aux uns aux autres. Enfin, vous me connaissez, vous savez que j'aime bouger, que je danse. Mais pendant ce séminaire, ce que j'ai compris et ce sur quoi j'ai prié, parce qu'on a eu un temps où on devait prier l'un avec l'autre, c'est que j'ai réalisé, en fait, que personnellement, j'avais cette spontanéité de danser et je disais que j'aimais danser seule et que la chorégraphie, c'était un problème pour moi, pour diverses raisons. Je ne sais pas faire les mouvements, je ne retiens pas, je me trompe et plein de trucs comme ça qui font que je n'étais pas avec les autres dans une chorégraphie. Limite, je refusais la chorégraphie pour ne pas me faire jeter, on va dire. C'était un peu ça mon sujet. Non, il me secoue la tête, mais c'était sur ça que je priais. Et du coup, j'ai réalisé à quel point l'importance d'être ensemble. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'avec le séminaire, j'ai pu un petit peu dépasser cette étape-là et me dire que j'aime danser avec les autres. Voilà, je voulais vous encourager dans ce sens.
je suis un peu comme toi, j'ai pas de mémoire. Donc, chorégraphie, c'est impossible. Je dis, c'est pas possible. Et en fait, là, j'ai pu le faire. Pourquoi? Parce que j'avais le sens du mouvement. Le sens du mouvement, c'est écouter, recevoir, donner. Donc, quand vous pensez au sens, les mouvements viennent tout seuls. Vous voyez? La coordination du mouvement vient par le sens. Si vous faites une chorégraphie Lac des Cygnes, faut que vous appliquiez chaque geste, chaque truc, chaque machin, etc., selon ce que l'auteur a décidé. Ça, c'est une chorégraphie. C'est pas ça qu'ils enseignent. C'est un mouvement basé sur la compréhension de la parole et l'expression de la vérité biblique. C'est ça? Oui, mais c'est un langage de la parole. C'est-à-dire, le contenu, c'est la parole. Et d'ailleurs, elle le manifeste en sortant les versets, etc., pour encourager à rester dans cet esprit. Et du coup, c'est créatif, parce qu'il n'y a pas un geste qui soit autorisé, un geste qui soit interdit. C'est un geste qui exprime. Et quand on le fait ensemble, eh bien, nos yeux, notre âme parle à l'autre. Et là, amen. Seigneur, merci de nous aider à rentrer dans la vision, parce que l'ennemi ne veut pas qu'on ait une vision commune. Parce que c'est sa mort, c'est sa défaite sur Élisabethville. Alors Seigneur, nous sommes dans un combat spirituel, non pas contre la chair et le sang, et nous te prions que tu aides à chacun de ceux que tu as appelés à rentrer dans cet appel collectif qui nous est adressé pour être ensemble, mettre toutes les choses en commun pour ta gloire.